Cela fait depuis quelques semaines que l'on a commencé cette étude du livre de la lettre, en fait, de l'apôtre Paul aux Romains. Nous avons vu ses salutations, nous avons vu le sujet du livre qui est l'évangile qui concerne son fils. Et la semaine dernière, nous sommes arrivés jusqu'au verset 16 et 17. Je vais en fait lire les deux. Parce que ces versets-là ont en quelque sorte de titre ou de thème de toute cette lettre. Paul l'écrit à l'église de Rome pour les raisons que nous allons voir un petit peu plus en détail par la suite, mais vous rappelez en fait qu'il écrit cette lettre, la conjoncture, c'est qu'il prévoit d'aller en Espagne pour apporter l'évangile. Donc il dit, j'arrive, je vais passer à Rome, j'ai envie de vous voir. J'ai envie de me faire accompagner par quelques-uns d'entre vous pour cette mission vers l'Espagne. Donc Paul voulait annoncer Christ où il n'était pas connu, comme il est dit au chapitre 15. Et voilà donc le titre, en quelque sorte, de cette lettre, où il explique en long et en large le sens de l'Évangile. Et nous l'avons vu la première fois, il y a un mois, combien de personnes au cours de l'histoire ont été touchées par cette lettre. Donc on a vu la conversion d'Augustin, la conversion de Luther, etc. par cette lettre. Et voilà donc ce qu'il dit, ce qu'il écrit, ce qu'il dit en fait, parce qu'on a vu aussi que c'est quelqu'un d'autre qui était son secrétaire qui l'écrivait. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et donc, ici, le thème, c'est l'évangile. Et en bon rabbin, on va dire, Paul était rabbin, il voulait toujours donner une base biblique à ce qu'il enseigne. Donc il a enseigné que l'évangile, c'est pour les juifs, c'est pour les grecs, c'est pour tout le monde, c'est le salut, une puissance de Dieu pour le salut. Parce que dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc nous avons vu que cette justice est la justice que Dieu nous donne. Pas la justice qui demande, parce que personne ne serait à la hauteur. C'est la justice qui nous donne. Mais il vient à la fin de l'annonce du thème de dire, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Cette citation du prophète Habacuc, Habacuc chapitre 2, verset 4. Et Paul le cite de nouveau dans les Galates, et l'auteur de l'épître aux Hébreux le cite aussi. Donc c'est un verset qui est cité trois fois dans le Nouveau Testament. Alors, je me suis dit, ce matin, ce serait bien de faire une petite parenthèse dans notre étude des Romains pour voir en quoi cette citation d'Habacuc nous aide à comprendre ce que cela veut dire, en fait. Le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que Habacuc voulait dire et qu'est-ce que cela nous apporte à nous pour comprendre ce thème de l'Évangile. Donc, on ne va pas revenir aux Romains avant la fin de cette prédication. Donc, le mieux, c'est de trouver Habacuc. Donc, c'est dans l'Ancien Testament. Habacuc, je vous donne le temps de le trouver. Si vous ne le... Vous savez pas où ça se trouve, c'est juste après Nahum.
C'est page 929.
Donc, c'est presque à la fin de l'Ancien Testament. À la fin de l'Ancien Testament, il y a Zacharie. Avant Zacharie, il y a Agé. Avant Agé, Sophonie. Et après, avant, c'est Habacuc. Il est connu comme le prophète qui a posé une question à Dieu. Il a posé deux questions, on va voir. Mais d'abord, c'est toujours bien de voir le contexte dans lequel ça s'est passé. Le contexte, je le marque là, c'est la menace d'une invasion des Chaldéens. Donc les Chaldéens, en fait, c'est la même chose que les Babyloniens. Quand je dis la même chose, c'est pas exactement la même chose, mais les Babyloniens et les Chaldéens étaient alliés. Donc, moi, je trouve, personnellement, je ne sais pas si c'est vous êtes, parce qu'il y avait trois grands empires dans l'Antiquité, et je ne sais pas si tu avais exprès, mais c'est, moi, je m'en souviens de l'ordre, par ordre alphabétique. Parce que d'abord, c'est les Assyriens, A, puis c'est les Babyloniens et les Chaldéens, BC, et puis c'est les Mèdes et les Perses, MP. Donc, c'est dans l'ordre alphabétique. On peut se rappeler comme ça. Assyriens, Babyloniens, Chaldéens, puis Mèdes et Perses, l'Empire perse. Si ça vous aide, tant mieux. Moi, ça me permet de me rappeler chaque fois l'ordre dans lequel ça s'est passé. Donc, ici, le peuple d'Israël est sous la menace d'une invasion des Chaldéens. Si on veut aller un petit peu dans le détail, la ville de Ninive, donc c'est la capitale des Assyriens, est tombée entre les mains des Babyloniens Chaldéens en 612. Avant Jésus-Christ. Et la ville de Jérusalem, de même en 597, avec le premier exil de, on estime à peu près 10 000 juifs. Et c'est seulement après, en 587, que Jérusalem était vraiment détruite. Et c'était une déportation massive du peuple juif vers Babylone. Et donc après, ils sont restés là à peu près 70 ans avant de revenir. Et là, c'est l'histoire dans les prophètes qui suivent Habacuc, Agée, Zacharie, Malachie, etc. Donc, qui a raconté après. Mais on n'en est pas là pour le moment. On est en fait à cette époque, si on veut, entre la fin de l'Empire assyrien et l'invasion de Jérusalem en 597 avant Jésus-Christ. Donc, Dieu dit donc qu'il va susciter ce peuple, et on va voir le contexte maintenant dans Habacuc, parce que c'est le point de départ. Alors, Habacuc pose deux grandes questions, et Dieu répond à deux grandes réponses. La première question de Habacuc, c'est pourquoi Dieu n'intervient pas, parce que ça ne va pas dans le pays. Donc on peut les lire dans le chapitre 1, les versets 2 à 4. Habacuc dit: « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, mais tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Autrement dit, ça ne va pas dans le pays. Et quand on regarde dans les chroniques, la fin des chroniques, plusieurs rois qui n'ont pas eu de long règne, chaque fois on dit, tel ou tel a commencé à régner, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, on va voir l'injustice, il y a des jugements iniques. Donc, comme dans la blague que j'ai entendue récemment, l'avocat qui dit à son client, la vérité a triomphé. Le client a dit, faites appel. Moi, je trouve drôle. Donc, l'injustice règne, il y a de la violence, et Habacuc dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Quelle est la réponse de Dieu? Je suis sur le point de le faire par le moyen des Chaldéens. Donc ça, c'est les versets 5 à 11. Réponse donc de Dieu. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on l'a racontée. Voici, je vais susciter les Chaldéens. Peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont point à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et assemblent les prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois. Les princes font l'objet de ses railleries. Ils se rient de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre, il les prend. Alors, son ardeur redouble. Il poursuit sa marche. Il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Donc, malgré leur orgueil, leur devise, ma force à moi, c'est mon Dieu. Il traverse de vastes espaces, il vient pour piller, il vient pour s'emparer de demeures qui ne lui appartiennent pas. Et donc Dieu dit à Habacuc, j'ai vu la violence et l'injustice et je vais intervenir, je vais envoyer les Chaldéens. Cette réponse n'a pas satisfait Habacuc. Il a dit, en quelque sorte, on va voir sa réponse, mais je résume, je veux bien, mais est-ce que le remède n'est pas pire que le mal, en quelque sorte. Je sais que ça ne va pas, mais envoyer des Chaldéens pour ça, ça ne va pas. C'est trop fort. Et voilà. Deuxième question d'Habacuc. Comment Dieu peut-il se servir de ce qui est impur? Alors, deuxième question d'Habacuc, à partir du verset 12, chapitre 1 et le verset 12. N'es-tu pas de toute éternité éternel, mon Dieu, mon saint? Mais nous ne mourrons pas. Sous-entendu parce que nous sommes ton peuple. L'Alliance, le grand Alliance. Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple, donc les Chaldéens, je pense dans le contexte, d'autres peuvent penser autre chose, je pense que ça, tu établis ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments, mais tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les rassemble dans ses raies. Ainsi aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il son pitié les nations? Alors qu'est-ce que Dieu répond en quelque sorte? Qu'est-ce que Habacuc répond? Elle dit, fin du verset 13, est-ce que tu ne regardes pas quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Il veut lui dire que c'est l'injustice, la violence et tout ça dans le pays. Mais elle dit, mais les Chaldéens, c'est pire. Tu ne peux pas te servir des Chaldéens pour accomplir tes projets. C'est pas vrai, c'est pas possible. Tu es le saint. Tu peux même pas regarder le mal et tu vas utiliser les Babyloniens, les Chaldéens. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas un sens à l'histoire? Et c'est pour cela qu'il parle de poissons, de pêche, etc. Il dit, traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer? Il les fait tous monter avec l'hameçon. Alors voilà, les poissons en train de s'amuser, c'est fun, ils nagent dans la mer, et puis tout d'un coup, il y a Philippe qui arrive, et un certain nombre sont pris, et les autres qui restent dans la mer. Est-ce que le poisson qu'on a sorti de l'eau, et qu'on va manger, est-ce qu'il méritait plus que celui qui est resté dans l'eau? Pourquoi certains poissons sont pris et pas d'autres? au mauvais moment, au mauvais endroit. Ce poisson-là. J'ai pris. Est-ce que Dieu, tu fais comme ça? Il y a des Chaldéens qui sont là, ils sont forts, et tu leur permets de faire ce que tu veux. Donc, est-ce que tu vas faire comme ça? Donc, il fait toute une description du pêcheur qui est tellement content d'avoir pris ses poissons dans son filet qu'il offre même de l'encens à son filet parce que c'est comme ça il va vivre. Sa portion est grasse, ils ont pris le beau poisson. Mais est-ce que vraiment Dieu le fait pour son. Il envoie les Chaldéens pour son plaisir. Est-ce que l'histoire a un sens? Est-ce que c'est le hasard qui fait que voilà, Israël était là, les Chaldéens étaient là? C'est-à-dire, c'est pas possible. À la fois parce que tu es saint, et je pense que tu veux conduire l'histoire selon ton plan. Donc, deuxième question d'Habacuc. Deuxième réponse de Dieu. Je donne déjà la réponse et puis on va lire le texte qui le dit. D'abord, il dit « L'orgueil ne restera pas impuni. » Donc ça, c'est un thème que l'on voit dans les prophètes. Dieu peut se servir des Assyriens, des Babyloniens, des Chaldéens, des Perses, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas parce qu'ils s'en servent qu'eux, ils sont innocents. S'ils ont fait le mal, ils sont aussi punis. Ils vont récolter le fruit aussi de leur violence. La deuxième chose, c'est que la force et l'orgueil n'auront pas le dernier mot. Et c'est là on arrive à ce verset cité par Paul dans les Romains, parce que cette fois-ci, Habacuc a posé ses questions et Dieu ne répond pas tout de suite. Donc on peut maintenant regarder dans le chapitre 2 et les versets 1 à 4. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Et voilà donc la prophétie, c'est le verset 4 en particulier. Voici, son âme s'est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. L'âme qui s'est enflée, c'est l'âme des Chaldéens. Donc leur orgueil, ils pensent que la force seule suffit, mais le juste vivra par sa foi. Pour le moment, on ne comprend pas trop ce que cela veut dire. On va passer en revue les chapitres 2 et 3 très rapidement d'Habacuc avant d'arriver à la fin. On va comprendre un petit peu mieux le sens de « le juste vivra par la foi ». D'abord, malgré tout, maintenant on passe dans le chapitre 2 à partir du verset 5, il y a quand même 5 gros malheurs qui sont prononcés parce que Dieu n'a pas changé. Avant de voir la question du juste qui vit par la foi, on va dire Dieu n'a pas changé. Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est saint, lui n'a pas changé. Donc il peut prononcer des malheurs. Il y en a 5, on n'a pas le temps de les regarder dans le détail, mais si vous voulez relire Habacuc après, rien ne vous empêche. D'abord, du verset 5 au verset 8, le malheur prononcé à cause de l'agression. Donc on voit au milieu du verset 6, « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. » Parce que, verset 8, « Tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes et tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Donc un malheur à cause de l'agression, parce que, et là on est tout à fait en phase avec deux versets du Nouveau Testament, Galates 6, on récolte ce que l'on sème. Eux, ils ont été violents. À un certain moment, les gens rebiffent, ils sont violents à leur tour, et les Chaldéens vont être attaqués à leur tour. Et leur empire ne durera pas ad vitam aeternam. Deuxième chose, c'est Jésus dans Matthieu 26, ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Donc la violence a des limites. Et celui qui est violent risque de subir la violence. Donc malheur à cette agression, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Deuxième malheur, à partir du verset 9. C'est le malheur à cause de l'orgueil. Verset 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. Non seulement ils sont orgueilleux, non seulement ils sont violents, mais ils sont orgueilleux parce qu'ils se croient à l'abri avec leurs gains. Placés comme dans un nid, dans un lieu élevé. Hein. Imagine un aigle ou je ne sais pas quoi, son nid est tellement élevé que c'est difficile de venir prendre les œufs dans un nid d'aigle, par exemple. Et il se dit, ainsi il va se garantir de la main du malheur. Mais ça ne marche pas, ce n'est jamais comme ça. Et finalement, la fin du verset 10 dit, c'est contre toi-même que tu as péché. De nouveau, on récolte ce qu'on sème. À la fin, ça ne marchera pas toujours. Troisième malheur, à partir du verset 12 à 14, à cause de la violence. Verset 12, malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Parce que finalement, Dieu est quand même le maître de l'histoire. Et le verset 13 dit, quand l'Éternel des armées l'a résolu, le peuple travaille pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera un jour remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qu'il couvre. Donc la violence ne durera pas. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Quatrième malheur, c'est à cause de l'humiliation imposée. Verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Parce que la nudité était une vraie honte. Je pense que j'ai dans la tête aussi le fait que dans les camps de concentration, les nazis faisaient déshabiller tout le monde, et les femmes en particulier, qui étaient une honte, en fait, de passer dans les soldats complètement déshabillés avant d'être gazés. Donc c'était une humiliation supplémentaire. Il n'y avait pas que la violence, il y avait cette humiliation aussi. Et le Seigneur dit que les violences retomberont sur toi. Donc quand même, de nouveau, récolter un jour ce qu'ils avaient semé. Et le cinquième malheur, c'est à partir du verset 18, on va lire d'abord le verset 19, « Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. » Il s'agit de l'idolâtrie. Le verset 18, on rappelle, donc à quoi sert l'image taillée pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a fait fasse en elle sa confiance. Et derrière la violence et l'orgueil, il y a toujours l'idolâtrie. Parce que finalement, il n'y a que deux choix. On croit au vrai Dieu, à l'Éternel, ou on cherche une autre explication de la vie. Bon, c'est une idolâtrie. Et le chapitre termine avec l'affirmation massive, l'Éternel est en son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Donc, avant donc de voir de nouveau, je reviens à ce qui est assez juste vivra par la foi, ce chapitre sert pour dire que Dieu, malgré le fait qu'il utilise quelque part dans le cours de l'histoire ces Chaldéens, il est le maître d'histoire et il n'a pas changé les règles du bien et du mal. Il n'a pas changé sa sainteté, etc. Là, on arrive au chapitre 3. On appelle la prière d'Habacuc, ou la complainte d'Habacuc, un poème en quelque sorte, et où il reçoit comme une autre prophétie en quelque sorte de ce qui va se passer. Et il dit bien au verset 2 qu'il craint cela. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte et accompli ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Donc, ça va, l'histoire va se dérouler. Les Chaldéens vont venir. Il y aura des morts, des viols, de la violence, du vol, de la destruction. Parce que le peuple de Dieu n'avait pas, le peuple d'Israël n'avait pas vécu comme Dieu l'avait voulu. Il fallait que Dieu intervienne. Il y a cette petite tête de pont dans l'histoire de l'humanité, ce peuple qu'il avait choisi pour se manifester, et ce peuple qui s'était détourné de lui. Donc il fallait que Dieu laisse faire quelque part l'histoire pour qu'il comprenne. Et comme vous pouvez le constater par la suite, quand ils sont revenus de l'exil, de cette déportation à Babylone, il n'était plus du tout dans l'idolâtrie. Ce n'était pas un pays parfait, mais il n'était plus dans l'idolâtrie. Jésus n'a jamais reproché aux pharisiens, au peuple juif, d'être dans l'idolâtrie. Ils avaient appris leur leçon. Mais ça va être terrible. Et les versets 3 à 15, on ne va pas les lire, mais c'est une description terrifiante de cette intervention de Dieu par le moyen des Chaldéens. Mais ce qui va retenir notre attention, c'est les versets à partir du verset 16. Pour mieux comprendre, le juste vivra par la foi. D'abord, les versets 16 à 17. Il sait ce qui va arriver, il est terrifié. Verset 16. J'ai entendu. Mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Il ne reste pas grand-chose, hein. Pas de figuier, pas d'olivier, pas de champs. Pas de brebis, pas de bœufs. C'est la calamité totale. Et c'est là, à la fin d'Habacuc, qu'il y a deux des versets les plus remarquables, à mon avis, de toute l'Écriture. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sous mes lieux élevés. Qu'est-ce qui change quelque part, ici, avec ce toutefois ? C'est qu'il passe à la première personne. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et jusque-là, on peut dire que tous les Juifs étaient complètement solidaires de leur peuple, de leur nation. Le Seigneur punit parce que la nation a mal agi. Mais là, Habacuc comprend qu'au sein de la nation, il peut y avoir des gens qui reste fidèle à Dieu. Et même si Dieu punit la nation, la personne à qui fait confiance à Dieu peut se réjouir en Dieu. Il ne sera peut-être pas épargné par rapport à ce qui va arriver, mais il a la foi personnelle en Dieu. C'est personnel, c'est individuellement, individuel. Ce n'est pas le peuple tout entier qui peut dire « Dieu est mon sauveur, mon salut ». Le salut ne vient pas parce qu'on appartient à un peuple. Le juste vivra par la foi, sa foi. Le salut ne vient pas parce que on appartient à une religion, la religion juive. Parce que, bizarrement, ils continuent à offrir des sacrifices dans le temple, à avoir des sacrificateurs, des lévites, des jours de fête, enfin, etc., tout en faisant le mal. Ça, c'est la religion. On fait les formes. Le Shabbat, on est dans le temple. Le lendemain, les tribunaux sont pas justes. Alors, on a fait notre devoir religieux. Ça ne suffit pas. Alors, on revient à Romains 1, verset 17. Parce que ça permet maintenant de voir un petit peu plus clairement pourquoi Paul cite. Je vais relire les versets 16 et 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce salut est pour quiconque croit. J'ai réinventé, c'est dans le texte. Pour quiconque croit. C'est la foi qui est importante. Ce salut est à la fois pour les juifs et pour le grec. Donc c'est vraiment quiconque. Mais en même temps, il faut que ce soit une foi individuelle et personnelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un appartenait au peuple juif qu'il était sauvé. Il fallait croire personnellement en Jésus. On peut l'étendre donc à nous et à notre situation. Ce n'est pas parce que quelqu'un appartient à la religion chrétienne, parce que baptisé enfant, qu'il est sauvé. Il faut qu'il ait la foi personnelle. Ce n'est même pas parce qu'on a grandi dans une église évangélique, où on a entendu des histoires bibliques à l'école de dimanche et tout ça depuis tout petit. Il faut qu'il y ait une foi personnelle. Ce n'est même pas parce que on fait partie d'une famille chrétienne. On peut se demander ce que ça veut dire, une famille chrétienne. Une famille chrétienne, je pense que c'est un couple chrétien qui a des enfants, qui doivent aussi, chacun pour leur part, à un certain moment, mettre leur foi personnellement en Jésus-Christ. Je sais que Marie, elle aime bien dire, Dieu n'a pas de petits-enfants. Donc, Dieu a des enfants sur les parents, il n'y a pas de petits-enfants. Il faut que l'on soit enfant, soi-même, enfant de Dieu par la foi personnelle. Donc, dès le début donc, de ce texte dans les Romains, on va regarder en long et en large l'Évangile. Mais avant de le faire, donc, il faut que tous ceux qui écoutent puissent être au clair pour dire, est-ce que moi, personnellement, j'ai mis ma foi en Jésus comme mon sauveur? Est-ce que je peux dire, oui, Jésus est mon sauveur? La seule issue par rapport au jugement et à la mort. Pour avoir une relation avec Dieu. Si oui, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant, comme on a vu avec Habacuc, autour de nous, ça peut être le chaos, ça peut être les calamités, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et ce n'est même pas parce qu'on est chrétien qu'on passe à travers, comme sur un petit nuage. Mais ça, ce n'est pas la question. La question, est-ce qu'on peut dire comme Habacuc, toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Bon. Je pense que c'est important d'avoir d'être au clair par rapport à cela avant que l'on n'aille plus loin dans cet épître qui explique les choses, parce que si on n'a pas fait ce pas, il n'est jamais trop tard. On peut le faire dès aujourd'hui. Prions. Seigneur, je te remercie pour la richesse de ta parole avec ce livre de Habacuc qui nous montre que cet homme a bien compris la leçon que le juste vivra par la foi. Et ce n'est que par la foi que nous pouvons être justes. Par la foi et pour la foi, du début jusqu'à la fin. Il y a cette confiance en toi parce que nous ne méritons rien. Merci Seigneur parce que l'évangile est vraiment une bonne nouvelle et nous voulons de notre côté y croire, mettre notre confiance en toi et même aller plus loin pour dire toutefois je veux me réjouir en l'Éternel, mon sauveur, quoi qu'il m'arrive, du matin jusqu'au soir, de dire je veux me réjouir dans Dieu, mon salut. Nous te remercions encore Seigneur pour ces textes qui nous parlent aujourd'hui encore. Au nom de Jésus.